20h30, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. Le plus grand trésor médiéval découvert en France, titrait récemment Le Figaro. Une découverte monastique et miraculeuse, pouvait-on lire un peu plus loin. Oui, à n'en pas douter, tous les ingrédients de l'archéologie sont ici réunis pour nous faire rêver. Un trésor de l'or, du jaune, comme disent certains archéologues. Autant de découvertes qui ne sont pas à la portée de tous. Malgré l'adage « on ne trouve que ce que l'on cherche », la réalité archéologique s'avère parfois tout autre. Certains cherchent, d'autres trouvent. Quoi qu'il en soit, ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir la représentante d'une équipe d'archéologues qui a trouvé ce qu'elle ne cherchait pas et désormais réfléchit à sa découverte au-delà d'un superbe trésor. Anne Beau, bonsoir.
Bonsoir.
Médiéviste, maître de conférences à l'Université de Lyon 2, membre du laboratoire archéologie et archéométrie de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, Anne Beau, vous travaillez sur l'abbaye de Cluny depuis 1992 avec la complicité d'Anne Flamin du CNRS. Hormis des missions en Syrie et Galilée, vous avez fouillé de nombreuses églises, dont Saint-Jean-Baptiste à Saint-Rambert, Saint-Julien à moins Saint-Michel de Nantois, sans oublier Saint-Mailleul de Cluny, Saint-André-le-Haut à Vienne ou l'abbaye cistercienne de Sainte-Marie d'Aulpes. Anne Beau, comment vous définiriez-vous, archéologue médiéviste, historienne du fait religieux ?
Alors peut-être qu'on pourrait dire que je suis une archéologue du fait religieux. Parce qu'en tant que médiéviste, on ne peut pas ne pas s'intéresser en fait à ce qui porte sur le christianisme. C'est une société chrétienne et effectivement, j'ai choisi de travailler dans ce domaine depuis de très nombreuses années, même avant 92, sur d'autres secteurs. Et c'est ça en fait, être archéologue, c'est rentrer par la petite porte et puis ouvrir les unes après les autres.
Vos recherches portent sur un centre culturel et religieux exceptionnel, celui de l'abbaye de Cluny.
L'abbaye de Cluny est effectivement la plus grande abbaye de l'Occident chrétien, puisqu'elle a été fondée en 910 par Guillaume d'Aquitaine, donc dans la Villa Cluniacensis. En fait, c'est une villa, c'est une circonscription territoriale au Moyen-Âge. Et il y a une fondation qui paraît modeste, a priori, et qui va se développer au cours du Xe et du XIe siècle, jusqu'à devenir vraiment un phare dans la chrétienté occidentale.
Il faut le rappeler, Cluny fut au centre du plus important réseau monastique du Moyen-Âge.
Réseau monastique bénédictin. C'est un monastère bénédictin et en fait, quand il vient fonder en 910, il vient fonder un monastère qu'il place sous la direction directe en fait de Rome. Il veut que ce soit une maison de prière, une maison d'hospitalité et il veut être au plus près de la règle de Saint-Benoît. En fait, il s'inscrit à la suite de la réforme de Benoît d'Agnan, qui est une réforme carolingienne. Et c'est un élément très porteur, c'est-à-dire que ces monastères, il va en fonder d'autres ou va en réformer d'autres et c'est pour ça qu'on parle ensuite de l'ordre clunisien.
Qu'en reste-t-il aujourd'hui, puisque une grande partie a été rasée au début du XIXe siècle?
Oui, après la Révolution, donc les moines sont partis, ils ont été chassés, il y en restait 12. Et puis ensuite, il est arrivé ce qui arrive à la plupart des édifices religieux monastères, pour nous qui connaissons la Révolution en France, c'est-à-dire qu'ils ont été démembrés et la plupart des matériaux ont été rachetés pour construire donc des maisons. Alors on a miné la façade, Qu'est-ce qui reste? Il reste le bras sud du grand transept, un petit peu de mur qui a été dégagé, il reste l'hôtellerie, aussi le farinier, et puis les grands bâtiments qui ont été reconstruits au XVIIIe siècle, qui sont aujourd'hui l'école des arts et métiers de Cluny. Mais les fouilles viennent au secours en fait de toute cette disparition.
Oui, parce que tout est en sous-sol.
Tout est resté en sous-sol. Alors évidemment, on peut pas fouiller où on veut parce qu'on n'est pas chez nous. Mais quand il y a possibilité, donc on monte des programmes de recherche pour essayer de découvrir en fait l'histoire de Cluny qui remonte à très très longtemps, puisque les dernières fouilles de septembre ont mis en évidence un four antique. C'est-à-dire qu'on a une continuité d'occupation depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui.
Et puis, vous n'êtes pas la première à fouiller. Une équipe américaine de Harvard s'était déjà penchée sur ce très beau centre
Oui, un très grand archéologue qui s'appelle Kenneth John Conant, qui a fouillé entre 1930 et 1950, qui a publié un énorme bouquin qui s'appelle Cluny, la maison du chef d'ordre, en 1968. C'était un architecte qui avait décidé en fait de retrouver le plan de la grande église, ce qu'on appelle la Major Ecclesia, ou Cluny III dans le jargon archéologique. Ce qui reste aujourd'hui, c'est le brassus de la grande église, et puis d'autres éléments, surtout les églises. Il cherchait surtout les églises. Alors, à partir en fait de ce qu'il a trouvé, des différents sondages, des pites, il a retrouvé des morceaux de murs, et il a proposé plusieurs restitutions de ce monastère. Et ça reste en fait, pour nous archéologues qui travaillons aujourd'hui sur le site, ça reste une base. Chaque fois on se réfère à ce qu'il a cherché, ce qu'il a trouvé, et puis on essaye de comprendre comment il a travaillé aussi.
Quand vous êtes arrivé sur ce terrain-là, vous aviez un objectif. Quel était cet objectif ?
Quand je suis arrivée, en fait c'était dans le cadre de la FAN, parce qu'il y avait une étude qui devait être faite dans le brassus du grand transept. On devait restaurer, l'architecte devait restaurer. Il y avait un projet, un nouveau circuit de visite, et il fallait donc étudier au préalable ces élévations pour pouvoir les restaurer. Donc de ce fait, avec une équipe, j'ai travaillé donc sur aussi bien en fouille que sur l'ensemble des murs avec l'archéologie du bâti. On a travaillé pendant plusieurs campagnes de fouilles sur ce qui restait. Et puis dans ce cadre-là, j'ai fait ma thèse en fait de doctorat sur Cluny, un grand chantier au cœur de l'Europe, parce que c'était effectivement un chantier de construction et un chantier humain qui était énorme.
L'archéologie du bâti, c'est quelque chose qui est assez peu connu. C'est-à-dire que dans les murs, on voit encore la succession des actions, bouchés, les portes fermées.
C'est ça l'archéologie du bâti. Alors c'est un petit peu plus connu par les médiévistes parce qu'en fait il y a des élévations. Je suppose que chez les préhistoriens il y en a moins, alors c'est sûr que c'est moins connu. Mais quand on travaille sur le médiéval ou sur le, ou même l'antique, l'antique, quand vous avez des termes en élévation ou le moderne, on peut lire à travers les murs, les différents phasages du bâtiment, mais on s'intéresse aussi au chantier, si vous voulez. On regarde comment c'est construit, donc on s'intéresse à la pierre, les approvisionnements, où sont les carrières, toute l'économie du chantier à travers en fait ce que l'on peut voir. On déconstruit mentalement le mur pour essayer de se mettre à la place de celui qui construit et de rebâtir.
Anne Beau, pourquoi se pencher sur l'infirmerie ? Quelle est d'ailleurs la place de ces bâtiments dans l'espace clunisien ?
La fouille de l'infirmerie, en fait, a été suscitée par la fouille précédente. Entre 2006 et 2013, nous avons fouillé avec Christian Sapin, qui est au CNRS. Nous avons fouillé, donc, la salle capitulaire, une petite partie de l'ancien chevet de Cluny II, et également la chapelle de l'infirmerie. Et finissant donc cette mission, si vous voulez, cette campagne de fouilles, ces différentes campagnes de fouilles, j'ai souhaité en fait poursuivre plus à l'est sur ce grand bâtiment que personne ne connaissait. Conant n'avait jamais fait le moindre sondage, on le connaît uniquement par un plan du début du XVIIIe siècle. Et cette question, elle est très 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 peu abordée en archéologie, alors qu'elle est essentielle, parce qu'une infirmerie dans un monastère, c'est un petit monde à part. Qui a bien sûr sa salle d'infirmerie, mais qui a aussi son réfectoire, sa cuisine, sa chapelle. C'est deux communautés qui ne fonctionnent pas en même temps. Et j'ai trouvé quand même assez intéressant de se pencher sur quelque chose que justement on ne connaissait pas. Alors, un petit peu plus difficile aussi.
Pourtant, ils vont tous prier ensemble.
Non, les moines qui sont malades prient dans la chapelle de l'infirmerie. Mais cette chapelle qui a aussi comme fonction d'accueillir celui qui est mort avant d'être enterré, qui est déposé dans la chapelle, devant l'autel de la Vierge, et ensuite même les abbés mourants.
Vous avez bien sûr retrouvé beaucoup de choses, notamment les restes de repas, des repas de malades.
Eh ben, on a trouvé effectivement beaucoup de faune, mais qui est en cours d'étude, donc je pourrais pas vous en dire plus si on a beaucoup d'arêtes de poissons. Mais vous savez, les moines malades, dans les infirmeries justement monastiques, peuvent manger, eux, contrairement aux moines, aux bénédictins, ils peuvent manger de la viande. Donc c'était intéressant justement de préciser ces repas.
Peut-être même des loris, cette chose absolument épouvantable. Votre trésor, c'est bien entendu cette fouille. Et visiblement, vous n'aviez jamais envisagé d'en trouver un en monnaie sonnante et trébuchante.
Ah, ça ne m'est jamais venu, mais même une seconde à l'idée. Alors, on pouvait pas le chercher puisqu'on finalement, on n'en avait même pas idée. Mais c'est vrai que c'était on était complètement surprise avec Anne Flamin, justement, parce que on a commencé à avoir deux, trois monnaies qui tombaient d'une berme. On s'est dit, tiens, il y en a plus d'une, parce que trouver une monnaie, ça arrive. Mais enfin, deux, trois, cinq, dix. On a dit, il y en a moins une centaine. Qu'est-ce que c'est? Et on est en face d'un trésor. Mais c'était absolument, inespéré, si vous voulez. La découverte tout à fait exceptionnelle.
Quel était le contexte de la découverte?
Nous étions à côté de l'infirmerie, mais ce sont justement les bâtiments qu'on a fouillés cette année, en septembre, pour essayer de mieux renseigner en fait cet endroit dont personne ne parle, ni dans les textes, ni sur les plans, ni les archéologues. Mais je pense néanmoins que cet espace qui comportait plusieurs pièces, que nous essayons de comprendre le plan, appartenait au secteur de l'infirmerie. Pour l'instant, c'est très difficile de vous en dire plus, si ce n'est qu'effectivement, on est dans un lieu qui est proche de l'infirmerie, qui est peut-être une annexe, qui est peut-être encore un extérieur, nous ne savons pas exactement.
Ce trésor, vous l'avez trouvé dans une berme ?
Oui, en limite de berme. Je peux vous dire qu'on a eu une chance absolument incroyable, parce que déjà, c'était un sondage qu'on faisait en plus pour essayer d'atteindre en fait les limites d'un bâtiment. Donc on l'a fait à la pelle. Alors ça, c'était déjà le premier point.
Appel mécanique.
Et l'appel donc a creusé, si vous voulez, une grande tranchée, une berme. Ça fait un grand front de taille dans la terre. Et là, c'est là qu'on a vu, si vous voulez, poindre quelques pièces qui annonçaient bien sûr le trésor.
Et tout était concentré dans une sorte de petit paquet.
C'est-à-dire, c'était une enveloppe en tissu qui contenait donc plus de 2000 deniers clunisiens, plus des oboles. Et dans ces deniers clunisiens, donc c'est des pièces d'argent, il y avait un autre petit sac en cuir qui, lui, était bien conservé et contenait des pièces d'or, 21 dinars d'or, plusieurs feuilles d'or pliées les unes sur les autres, forment une sorte de petit lingot et une magnifique bague sigillaire, c'est-à-dire une bague qui fait des sceaux, qui permet d'imprimer en fait un sceau.
Ce serait la première fois que l'on trouve un trésor dans une abbaye médiévale ?
C'est la première fois qu'on trouve un trésor in situ dans une abbaye médiévale, c'est-à-dire que le trésor est à l'endroit où on l'a déposé, et non dans un remblai, et non une trouvaille fortuite faite par exemple par un agriculteur qui laboure son champ. Là, c'est vraiment à l'occasion d'une fouille dans un lieu, on sait qu'il a été déposé ici. Et ce qui est assez remarquable, parce que nous avons fouillé autour maintenant, c'est que finalement, où se trouve le trésor, c'est le seul endroit où le sol n'a pas été attaqué par les travaux ultérieurs. Donc c'est absolument miraculeux, vous aviez raison de le préciser tout à l'heure.
Qu'est-ce que l'on fait quand on découvre un tel ensemble monétaire ? Laura Gourand disait souvent que devant des grandes découvertes, il fallait se mettre sur la berme et réfléchir.
Alors déjà, on va être plus prosaïque. Déjà, il faut sortir le trésor parce qu'il est 5h du soir, que nous sommes dans une école, que ça va prendre un peu de temps et que on n'a pas tellement envie que tout de suite la nouvelle soit diffusée. Parce que nous avons trouvé le trésor en début de fouille, il y avait ensuite les 6 semaines de fouille qui allaient arriver. Donc on a fait au plus vite jusqu'à 8h du soir, on a prélevé et on l'a vite transporté, si vous voulez, dans un laboratoire de restauration.
Donc ça se prélève en bloc ?
On n'a pas pu le prélever en bloc. Normalement, ça se prélève en bloc, mais parce qu'on n'avait pas assez le temps et que la nuit tombait, on a été obligé de le prélever couche après couche, si vous voulez, dans la berme. On sait que ce n'est pas la meilleure façon de faire, donc on a fait une couverture photo, mais parce qu'on n'avait pas le choix.
Tout était contenu dans une sorte de petit sac. On peut imaginer que tout ça était très concrétionné.
C'était relativement concrétionné. Donc, on a déposé le trésor à Vienne, au sud de Lyon, donc le laboratoire du CREAM. Et là, donc, on a pu procéder à différents bains, enfin les restaurateurs, hein, bien sûr, et pour détacher les monnaies les unes des autres, pour celles qui ne l'étaient pas, et puis commencer ensuite, depuis peu, l'analyse numismatique.
Vous avez visiblement beaucoup de monnaies d'argent, ce que l'on appelle des deniers.
Des deniers, oui. On a 2113 deniers clunisiens de l'abbaye de Cluny, avec 150 oboles. Donc une obole, c'est la moitié d'un denier, des toutes petites pièces. Ça, c'est extrêmement rare. Il y en a très peu en circulation, donc c'était absolument invraisemblable. Et puis, on a aussi 6 autres deniers qui proviennent d'ailleurs. Donc, 2 deniers, en fait, de Meaux, un de Bourgogne, 2 aussi de Louis VII, roi de France, bon, un petit peu. Donc là, c'est vraiment la recherche, elle commence ici, parce qu'il faut savoir comment étaient composés ces deniers. Ces deniers, en fait, ils recouvrent toute la période des missions clunisiennes, à savoir fin 11e, fin 12e siècle.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Alors, avec ces deniers, il s'agit visiblement du plus important lot de deniers clunisiens jamais découvert.
Oui, c'est le plus important lot de deniers clunisiens découvert. Ça montre qu'effectivement, il y a bien eu une mission de deniers clunisiens, parce qu'on le savait dans les textes, on le voit dans les chars de la fin du 11e, début du 12e siècle, on avait trouvé très 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 peu de deniers encore. Et là, ça semble donc donner une autre réalité. Effectivement, il y a bien émission de deniers qui sont surtout quand même centrés autour de Cluny et de la Bourgogne. Il y en a quand même, on en a trouvé un en Angleterre, et puis d'autres, le les autres lots ont été trouvés en Espagne, en fait, vers Sahagún. Enfin, Sahagún est un prieuré clunisien. Donc, ça peut se justifier par les relations qu'avec Cluny, que Cluny entretenait, en fait, avec l'Espagne et puis ses prieurés.
Ce qui paraît très étonnant, c'est que Cluny puisse frapper monnaie.
Cluny avait l'autorisation de frapper monnaie, comme d'autres abbayes en France, depuis le début ou même la fin du Xe siècle, début XIe siècle. Mais les deniers que l'on a retrouvés, qui sont vraiment mentionnés dans les chartes, arrivent plutôt à la fin du XIe. Donc, est-ce qu'il y a une autorisation qui a précédé largement l'émission ? C'est possible, de ces deniers. En tout cas, ce qu'on a retrouvé en archéologie, ce qu'on peut comparer avec les textes, c'est plutôt fin XIe, début XIIe et puis XIIe siècle jusqu'au XIIIe siècle.
Qu'est-ce que représentent ces deniers ?
D'un côté, il y a la clé de Saint-Pierre. Il a écrit Saint-Pierre et Saint-Paul avec la clé. Et de l'autre côté, en fait, il y a une croix avec écrit Monastère de Cluny.
Et c'est de l'argent totalement pur ?
Avec un petit peu de cuivre. C'est pour ça que c'est oxydé. C'est pour ça qu'en fait, il y a un petit peu de... Ils sont un peu verts. Ils sont arrivés un petit peu verts. C'est un petit mélange.
Et sa fonction, c'est une fonction d'échange à longue distance ou pas ?
Toute la recherche porte justement sur ces échanges-là. C'est là où on a le moins d'informations. On est très peu renseignés, en fait, sur ces questions-là.
On peut penser, par exemple, Anne Beau, que ces monnaies aient été frappées absolument à Cluny, sur place ?
Actuellement, c'est ce que l'on pense. On pense qu'il y a effectivement, c'est certain, un atelier de monnaie à Cluny. On ne sait pas où, on n'a pas retrouvé encore l'endroit. Est-ce qu'il y en a ailleurs ? Je ne pourrais pas vous répondre sur cette question.
Que nous apprennent les autres émissions, celles par exemple de mots ?
Eh bien que ce sont des émissions de mots. Je ne peux pas vous en dire plus dans ce domaine, parce qu'effectivement, ça veut dire qu'il y a une somme d'argent qui est rassemblée, que celui qui a cette somme, eh bien, a eu des échanges avec d'autres régions. Mais c'est très compliqué, si vous voulez, de savoir à qui appartient en fait cette bourse et pourquoi elle a été déposée à cet endroit-là. C'est vraiment le début de la recherche, là. C'est là que ça devient d'ailleurs intéressant.
Les plus belles découvertes pour moi sont sans nul doute les 21 dinars d'or, ce que l'on appelle des marabottins.
Oui, alors il y a ces 21 dinars d'or qui ont été retrouvés, donc qui viennent plutôt du sud de l'Espagne, qui viennent de Grenade, qui viennent de Cordoue, qui viennent aussi du Maroc. C'est pas rare de trouver, enfin c'est pas rare, tout est relatif, mais il est arrivé déjà qu'on trouve des dinars arabes en France, parce qu'en fait c'est la monnaie, quand on veut avoir de l'or et de la monnaie d'or, c'est de la monnaie arabe ou byzantine. Mais en France, il n'y a pas de monnaie d'or. Il faut attendre que le siècle suivant, que Florence, si vous voulez, frappe son florin. Donc, si on veut des échanges qui soient, par exemple, qui soient moins lourds à transporter, il vaut mieux transporter de l'or que de l'argent, pour valeur égale. C'est vrai que ces monnaies d'or sont intéressantes, surtout qu'elles viennent tous à peu près de la même région et qu'il y a un travail aujourd'hui à faire, sur les monnaies, bien sûr, mais avec les spécialistes, mais aussi sur ces régions et sur l'économie, en fait, de ces régions où elles ont été retrouvées.
Elles viennent d'un royaume berbère, le royaume almoravide ?
C'est le royaume almoravide, oui, effectivement. D'ailleurs, c'est celle-là, en général, qu'on trouve. Effectivement, 21 dinars, Almeria, Séville, Grenade, voilà, c'est les sites, plus, en fait, Noulanta, qui se trouve au Maroc.
Elles ont été frappées au nom de personnages connus.
Oui, de personnages connus, et puis surtout, elles sont datées, contrairement aux deniers, donc c'est bien pratique, parce que ça permet déjà de se caler dans un temps, mais il y a Ali Ben Youssef.
On est grosso modo entre 1106 et 1143, c'est ça ?
143 pour Ali Ben Youssef, c'est certain, et puis on a aussi un dinar qui vient de Tashfin Ben Ali, et qui lui va jusqu'à 1145, ce qui recule un petit peu la datation.
Ça correspond bien avec votre stratigraphie ? Ça correspond bien aussi avec l'édifice de Cluny ?
C'est certain que le trésor, lui, aujourd'hui, en fait, est daté par un denier, qui est le dernier qu'on a été identifié à la rentrée, parce qu'il a été étudié, c'est celui de Renaud, évêque de Meaux. Et là, ça nous cale, si vous voulez, le trésor entre 1158 et 1161.
Parce donc que un peu plus tard.
Datation d'épiscopat. C'est-à-dire que oui, c'est un petit peu plus tard. Donc le trésor a sans doute été enfoui à cette époque-là.
Vos dinars, ils sont un peu usés ? Ils sont absolument tout neufs ?
Ils ne sont pas tout neufs, mais ils sont
donc ils ont voyagé, ils ont
très variables.
Ils ont 20, 30, 40 ans.
Nous avons eu une discussion très récemment justement à ce propos. Et en fait, les numismates ne peuvent pas dire vraiment s'ils ont beaucoup été utilisés ou pas. C'est difficile de le voir parce qu'ils sont quand même un peu oxydés pour certains.
Les monnaies d'or circulent-elles dans l'économie de l'Europe médiévale ? Non, semble-t-il pas, mais pourquoi ? Ça paraît curieux.
Quelques-unes circulent. Parce qu'il y a eu quand même des trouvailles qui ont été faites un petit peu d'or, mais évidemment, il n'y en a pas énormément. C'est parce qu'en fait, dans nos trois royaumes, dans l'Empire, on utilise les deniers, les monnaies d'argent.
Mais c'est beaucoup plus lourd à transporter.
C'est plus lourd à transporter, ça, on l'a compris au XIIIe siècle, si vous voulez, quand on a commencé à utiliser des forains. Mais sinon, vous voyez, c'était pas dans l'usage. Et puis c'est vrai que l'or, l'approvisionnement, par exemple, pour Almeria, ça vient d'Afrique, c'était un circuit qui était assez aisé. Voilà, donc il faut attendre encore un petit peu de temps pour que ça vienne une monnaie fréquente, en fait, dans nos régions.
On est peut-être aussi dans une économie qui n'est pas encore très très monétaire. Ou qu'il l'est, mais pas
elle, elle commence à l'être au XIIe siècle, justement, elle l'est. Elle le devient. C'est vrai, vous avez raison, au XIe siècle, elle ne l'était pas tellement. Et au XIIe siècle, ça commence à être une économie monétaire. Effectivement, il y a un autre usage. Mais vous savez, il y a peu de choses dans les textes qui renseignent, en fait, sur cette économie-là et sur ces échanges et sur ces circulations. C'est l'archéologie, là, qui peut nous donner le plus d'informations.
A-t-on d'autres documents attestant de liens entre l'abbaye de Cluny ou d'autres abbayes et les royaumes almoravides?
Il y a des documents, oui, qui attestent les relations. Pierre le Vénérable, par exemple, qui meurt en 1158, qui est un des derniers grands abbés charismatiques, il se rend en Espagne, il visite ses prieurés espagnols, parce que l'abbatiale de la Mayor Ecclesia, qui a été construite à la fin du XIe siècle, a été beaucoup soutenue par les souverains de Castille. Donc il y a une relation qui est très ancienne avec l'Espagne. Ensuite, elle est maintenue à travers, en fait, les visites dans les prieurés, des voyages qui sont faits. Oui, on voit des petites choses dans les chartes. Mais ça ne veut pas dire, si vous voulez, et là, il faut être très clair là-dessus, ça ne veut pas dire que celui qui a déposé son trésor vient d'Espagne. Ça, c'est autre chose. Il a des dinars, c'est certain. Mais il vient peut-être pas du tout d'Espagne, c'est peut-être quelqu'un qui vient de pas très loin ou de plus loin, mais voilà. Avoir des dinars espagnols, enfin arabes, ne veut pas dire que le trésor vient... Bien sûr qu'à un moment donné, elles sont venues, mais à quelle période? Quand?
Les vestiges musulmans sont en tout cas extrêmement rares dans la France médiévale. Je signale au passage que l'on a trouvé récemment quelques tombes découvertes à Nîmes. On a quelques trésors, mais c'est en général des choses assez anciennes.
Assez anciennes. La plupart du temps, c'est des trésors qui ont été trouvés au XIXe siècle, fortuitement. Mais peu de choses qui sont en place et qui nous donneraient effectivement plus d'informations, mais c'est souvent le cas. Donc on a peu d'informations, c'est certain.
Et c'est quasi inétudiable, ces vieilles séries.
Je pense que si, pour les numismates, c'est important. Mais elles sont étudiées d'ailleurs. C'est des séries qui sont étudiées et qui rentrent dans l'étude des monnaies. Voilà. Maintenant, sur leur rôle dans la région où elles ont été trouvées, c'est plus complexe parce que si vous n'avez pas les bâtiments qui vont avec, les sols, enfin tout ce qui concerne en fait la stratigraphie, les différentes couches les unes sur les autres, qui peuvent vous donner des repères, c'est beaucoup plus difficile.
Pour vous, la plus belle pièce serait une bague sigillaire, donc du XIIe siècle?
Alors là, oui. La plus belle pièce, parce que celle-ci, elle est unique. Les dinars, ils ne sont pas uniques, mais la plus belle pièce, c'est cette fameuse bague sigillaire qui, pour l'instant, n'a absolument pas de comparaison, tant dans sa dimension que la qualité de cette pièce-là.
Une bague en or.
C'est une bague en or, une monture en or qui comprend une entaille antique, donc une pierre, une cornaline qui a été taillée durant l'Antiquité, qui représenterait Caracalla sous les traits d'Hercule. Et donc cette bague est montée sur une monture en or, qui est un petit peu bricolée d'ailleurs, mais enfin une très grosse bague. Et il y a une inscription tout autour, qui est une formule de salutation AVT, salut à toi, et qui pour l'instant est encore un peu énigmatique. Voilà, et il y a une grosse recherche actuellement qui est faite sur cette bague, et qui d'ailleurs suscite de la curiosité de beaucoup, beaucoup de spécialistes jusqu'aux États-Unis. Donc c'est vraiment une pièce majeure.
Pourquoi ?
Parce qu'elle est unique, qu'elle est tout à fait impressionnante. Et pour l'avoir vue à plusieurs reprises, si vous voulez, pas en photo, c'est vrai qu'elle est absolument incroyable. C'est une bague qui est absolument étonnante.
Est-ce qu'elle aurait pu avoir des fonctions officielles?
Ce que l'on pense aujourd'hui, or peut-être que dans 3 ans on dira autre chose, mais ce que l'on pense aujourd'hui, c'est qu'elle appartient à un évêque, enfin un dignitaire de l'Église. Alors ça peut être un abbé, un prieur, on pense plutôt à un évêque, parce qu'ils avaient des sceaux. Et donc, c'est les évêques, au Moyen-Âge, effectivement, ils ont leurs sceaux au XIe, XIIe siècle. Donc, ce serait, si la bague appartient à un évêque, elle a un anneau qui est très large, c'est-à-dire qu'elle se met au pouce. Ça veut dire qu'en fait, tout le trésor appartient à l'évêque. Donc, voilà, ça, c'est déjà quelque chose d'assez important. Donc, il y a quelques petites pistes qu'on lance, justement, de ce côté-ci, de voir quel est l'évêque qui éventuellement aurait pu déposer, cacher ce trésor, à moins que quelqu'un lui ait dérobé et l'ait caché. Ah, c'est absolument pas impossible.
Cette bague sigillaire, donc, c'est une bague avec une sorte de sceau. On utilisait déjà des sceaux au XIIe siècle,
oui.
En cire ou en d'autres matériaux.
Oui, c'est ça. Ça ferme les justement tous les courriers importants. Oui, bien sûr qu'il y a des sceaux qui existent et c'est de bagues. Et d'ailleurs, c'est pas rare d'utiliser une taille antique pour des sceaux. On en voit d'autres. Il y a d'autres exemples.
Ça paraît quand même curieux d'utiliser du mobilier archéologique, enfin du mobilier romain à des fins de remonter une bague à partir de quelque chose de romain.
Parce qu'on a une mentalité du XXIe siècle, mais je pense qu'au Moyen-Âge, ça ne posait aucun problème.
Donc... Vous avez aussi une sorte de petit carré d'or.
Oui.
De quoi s'agit-il ?
Alors, ça nous a beaucoup quand même intrigué. En plus, ce petit carré d'or, il était dans une autre petite pochette de cuir qui était consciencieusement cousue des deux côtés. Et c'est en fait plusieurs feuilles d'or qui ont été repliées. Et on obtient un poids à peu près de quasi 24 grammes. Et ça a suscité pas mal d'interrogations parce qu'on se demandait s'il y avait quelque chose à l'intérieur. S'il y avait une petite bosse. Et puis ensuite, on est allé à Arc Nucléaire, qui est un gros laboratoire à Grenoble, et qui a essayé, donc tenté de voir au rayon X ce qu'il en était. Puis on a été obligé de faire appel. Ils ont fait appel, grâce, si vous voulez, à des relations d'amitié, hein, au CEA. Donc ça, c'est encore au-dessus, d'un point de vue de des rayons. C'est le commissariat donc à l'énergie atomique et aux énergies renouvelables. Et là, on a fait une analyse qui s'appelle de la microtomographie. Et ça permet, si vous voulez, donc de pénétrer les matières très compactes. Et l'or, c'est très, très compact. Et on a pu voir ainsi qu'il n'y avait rien dans ce carré d'or, mais que ce qui faisait la bosse, en fait, c'était parce que c'était extrêmement tassé. Et également que c'était donc des feuilles d'or. Alors, pourquoi ces feuilles d'or sont trouvées? Bon, déjà, c'est de l'or, donc c'est une masse d'or. Alors, c'est vrai qu'on peut aussi utiliser des feuilles d'or, par exemple, pour les enluminures. Dans les peintures, c'est comme cela qu'elles se présentent. Ou alors, c'est tout simplement une réserve d'or.
Anne Beau, a-t-on une idée de la valeur de ce trésor?
De la valeur actuelle?
Actuelle
ou de la valeur
passée,
médiévale?
Passée, médiévale, les deux.
Alors, actuelle, je crois qu'il y a vaguement des je ne rentrerai pas dans les chiffres actuels. La bague, elle est inestimable. Ensuite, les deniers peuvent se compter. Alors, par contre, si on vient, ce qui est plus intéressant, c'est au Moyen-Âge. Là aussi, c'est très difficile. C'est très, très difficile de voir. Alors, Vincent Borel, qui est le numismate qui travaille avec nous, a tenté un petit jeu. C'est de voir qu'est-ce qu'on pouvait dépenser, si vous voulez, avec cette somme. En fait, c'est pas énorme dans le sens où vous pouvez, par exemple, acheter avec l'ensemble de ce trésor de 2 à 20 chevaux. Bon, le cheval est quelque chose de précieux. Ou alors, vous pouvez nourrir la communauté monastique qui doit remonter à 300-400 personnes avec tout le monde pendant une semaine. Donc, c'est pas un trésor d'habits. C'est vraiment un trésor particulier. Mais important pour lui.
Une dernière question, Anne Beau. Qui a caché ce trésor et surtout, pourquoi?
C'est un piège total, parce que justement, c'est toute la question qu'on se pose. Donc, je l'évoquais un petit peu juste avant, peut-être que c'est... Alors, on va rentrer dans le roman, mais ça fait du bien, puis dans 3 ans, on dira autre chose, vous m'inviterez, je dirai le contraire. Bon. Mais on peut se demander si c'est pas, par exemple, alors, la bille est très accueillante, donc ça peut être un visiteur, mais un dignitaire de l'église, un évêque, qui peut, par exemple, tomber malade, donc qui cache son trésor, qui ne le dit pas, son bien, c'est pas un trésor, son bien. Il rentre dans l'infirmerie, il meurt, et le trésor est perdu. Bon, ça peut poser aussi des problèmes, parce que soit il a souvent des serviteurs, donc bon, soit c'est quelqu'un aussi qui l'a dérobé et qui l'a caché, mais qui, là aussi, qui a un petit peu la même destinée que pour l'évêque, qui est sans doute mort avant de venir le récupérer.
Anne Beau, merci beaucoup. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Valérie Lavalard et avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, nous évoquerons le crépuscule du Paléolithique en nous rendant sur une fouille à Angoulême.